tout en étant par ailleurs le directeur de l'ERADLEC, qui est l'équipe de recherche et d'accueil en didactologie des langues et des cultures, également à l'Université de Paris 3, membre du laboratoire d'histoire et de théorie linguistique du CNRS, membre du comité de direction de la revue Langue française, membre de l'Observatoire national de la lecture. Voilà, donc j'interromps l'énumération parce que vous avez un CV très fourni. Notamment, je ne signalerai pas les nombreuses publications dont vous êtes auteur, puisque c'est donc au moins annuellement, vous avez à votre actif une nouvelle publication dans votre domaine. Voilà, donc nous sommes très, très honorés et très heureux de vous accueillir ce soir autour d'un sujet qui nous tient à cœur, enfin qui tient à cœur surtout beaucoup, je pense, à votre auditoire qui sont des professionnels de l'enseignement, puisque le sujet que vous proposez d'évoquer avec eux, ce sont les évolutions récentes de l'enseignement de la grammaire en classe de français langue étrangère. C'est donc un menu qui est absolument quotidien pour, je pense, la plupart de vos auditeurs ce soir. Donc sans plus tarder, je vous cède la parole et je vous souhaite une très bonne conférence.
Merci, monsieur le directeur. Bien, alors, on va procéder à quelques réflexions. Vous m'entendez? On n'a peut-être pas besoin du micro. Hein? Bon, voilà. Mais à moins que... S'il enregistre, mais on peut peut-être l'interviewer.
Mais de toute façon, ça doit être suffisant pour l'enregistrement.
Voilà, peut-être c'est suffisant ainsi. Bon, alors voilà, je me suis dit qu'une intervention sur l'enseignement de la grammaire pouvait être intéressante pour les enseignants. En français, langue étrangère, bon, disons, d'une manière générale, dans le domaine de l'enseignement des langues. Alors, j'ai intitulé ce propos, bon, direction actuelle de l'enseignement de la grammaire, je vais donner quelques éléments de réflexion, et puis j'espère qu'on pourra avoir une petite discussion à partir de vos expériences, de votre enseignement, de questions que vous vous posez dans le domaine. Bon, alors, par quoi peuvent se caractériser les évolutions actuelles de l'enseignement de la grammaire? Bon, la grammaire, évidemment, c'est une discipline ancestrale, hein, je veux dire, multimillénaire, dans des traditions différentes, tradition grecque, latine, toute une tradition aussi dans d'autres aires, en sanskrit, etc. Donc évidemment c'est difficile, et moi je ne veux pas faire un tableau, si vous voulez, de l'évolution de la grammaire comme discipline. Peut-être dire un petit peu du point de vue de l'enseignement et de la didactique ce qui se passe. Et donc je vais rentrer, si vous voulez, directement dans le vif du sujet. Moi, je crois que le mouvement, à mon avis, le plus caractéristique, disons, actuellement, je dirais, c'est l'élargissement de la grammaire à l'étude de la langue en général, à l'étude des systèmes linguistiques. Il y a une acception traditionnelle du terme grammaire qui est, au fond, l'étude de la morphosyntaxe des langues, morphologie plus syntaxe. Je crois que ce qui caractérise actuellement les directions, c'est donc effectivement cet élargissement. Élargissement vers quoi? Je vais essayer de pointer certains éléments de cet élargissement. D'abord, je pense que dans les recherches actuelles, il y a clairement un élargissement du côté des relations entre la grammaire et le lexique. Il me semble que toute une série effectivement de travaux viennent confirmer cette relation entre la grammaire et le lexique. C'est important parce que un certain nombre de théories, en particulier la grammaire générative de Chomsky première manière, avaient argumenté le fait, je dirais, un peu de l'isolement de la syntaxe comme composant majeur des langues. Et je crois que avec toute une série de travaux, la connexion avec l'étude des structures lexicales est de plus en plus importante. Pourquoi ça nous concerne, disons, dans l'enseignement de la grammaire, ce point? Bien, parce que on voit bien que quand on travaille avec des apprenants sur la grammaticalité des énoncés, qu'est-ce qui fait que tel ou tel énoncé appartient effectivement à la langue française, les éléments de cette grammaticalité ne sont pas simplement, ne relèvent pas simplement des structures syntaxiques. Elles relèvent aussi de la relation avec les termes qui sont impliqués dans les structures syntaxiques. Quand on a des discussions autour de la grammaticalité, on est obligé de se poser des problèmes du genre quels sont les traits sémantiques du sujet à gauche, quels sont les traits sémantiques de l'objet à droite. Il suffira pas de dire qu'une phrase, par exemple, pour aller vite, est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un objet, pour qu'il y ait effectivement grammaticalité et acceptabilité de l'énoncé, il faut que ce ne soit pas n'importe quels éléments qui occupent la position de sujet et n'importe quels éléments qui occupent la position de l'objet. Ce sont des éléments qui ne sont pas faciles effectivement à théoriser. Mais nous en avons besoin. Pourquoi ? Parce que il est parfaitement normal de dire le professeur regarde ses collègues. Parfaitement normal. Il deviendrait peut-être plus problématique de dire, je ne sais pas moi, le rideau regarde le professeur. Et donc la question de savoir quelle est la nature du sujet qu'admet le verbe regarder est une question qui est une question indissolublement de lexique et de syntaxe. C'est important parce que on ne pourrait pas non plus dire en français que de manière systématique, le sujet du verbe regarder doit être un élément humain, voire animé, parce que je ne sais pas si les animaux regardent, et si donc ils sont en position de sujet. Je pense qu'ils voient, c'est pas la même chose. Okay? Mais par exemple, nous avons besoin d'une définition plus large, parce qu'en français, nous produisons par exemple des énoncés du genre « le balcon regarde la mer ». Et les francophones acceptent volontiers cet énoncé-là pour dire « le balcon est en face de la mer ». Il faudra donc bien réfléchir à la question de savoir quels sont les traits sémantiques du sujet que le verbe « regarder » sélectionne en français. Et donc, je donne cela comme un exemple de la nécessité de penser ensemble la structure syntaxique et les éléments, les noms par exemple, qui sont sélectionnés par le verbe, aussi bien en position de sujet à gauche qu'objet à droite, etc. Bon. On ne peut pas faire de la syntaxe sans avoir une théorie en français des traits sémantiques des noms. Ça, c'est un point. C'est un élargissement, je le donne comme un exemple de la relation entre lexique et grammaire. Il y a un deuxième élargissement, qui est encore plus large, si je puis dire, c'est au fond la relation entre grammaire et sémantique. Bon, pourquoi ? Parce que quand nous traitons par exemple de certaines questions typiquement grammaticales pour le français, j'imagine que vous faites des cours par exemple sur la place de l'adjectif épithète en français. Alors évidemment c'est un problème syntaxique de savoir si l'adjectif épithète peut être placé à gauche, peut être placé à droite, peut être placé à gauche ou à droite. Et évidemment cette question est liée à l'autre question de savoir, est-ce que quand il est placé à gauche ou à droite, et que syntaxiquement les deux sont possibles, est-ce qu'il y a des différences de sens ou pas ? Et évidemment, nous savons bien que dans un certain nombre de cas, il y a des différences de sens, ou parfois des différences, je veux dire, des nuances, ou des éléments, disons, qui relèveraient plus volontiers de la stylistique. Mais il est vrai, par exemple, que traiter de la différence entre un homme grand et un grand homme, ou un bel homme et un homme beau, pour prendre un exemple un peu plus sophistiqué, et peut-être moins facile à traiter du point de vue sémantique, eh bien, c'est une question de syntaxe, mais que cette question de syntaxe est intimement liée à une question de production du sens. Et donc, cette variable sémantique, nous ne pouvons pas l'éliminer quand nous traitons un certain nombre de questions de syntaxe. J'ai pris cet exemple de la place des adjectifs, sans doute y a-t-il d'autres exemples possibles, et puis on pourra en discuter, qui vous viennent à l'esprit, où la relation entre la syntaxe et la sémantique est vraiment centrale. Maintenant, il y a un troisième type d'élargissement qui lui, maintenant, je dirais à pignon sur rue, au fond, c'est l'élargissement, si vous voulez, entre grammaire de phrase et grammaire de texte, ou grammaire textuelle. C'est-à-dire, au fond, c'est la question qui est posée, qui est d'ailleurs posée en didactique du français langue maternelle de manière absolument banale aujourd'hui, mais tout aussi bien en didactique du français langue étrangère, c'est la question de la différence et de la proximité entre la grammaire de phrase et la grammaire de texte. Bon. Avec une question qui est toujours centrale en grammaire, qui est au fond de dire, quelle est l'unité sur laquelle on travaille ? Dans les études lexicales, ça ne fait pas trop de difficulté de dire nous travaillons dans le cadre du mot, même si le mot est une unité problématique pour les linguistes, évidemment. La question en grammaire est de se dire, est-ce que nous travaillons sur l'unité phrase ? Et auquel cas, qu'est-ce qu'une phrase ? Et quelle est la limite entre une phrase et deux phrases, entre une phrase et un texte ? Le fait d'avoir cette dichotomie grammaire de phrase, grammaire de texte amène à revisiter un certain nombre de questions classiques de la grammaire. Il est évident que si nous prenons en compte les phénomènes de la textualité, on ne pourra plus tout à fait traiter de la même manière les questions de l'emploi des déterminants, ou les questions de l'emploi des pronoms, ou les questions de l'emploi des temps verbaux, etc. Et on voit bien là que la perspective strictement morphosyntaxique est évidemment insuffisante dès lors que nous avons à traiter de la question de la gestion, par exemple, des anaphores dès qu'on a deux phrases, ou de la cohérence des temps verbaux. Donc on voit bien là, si vous voulez, que grammaire, bon, est un terme qui est maintenu pour traiter de la textualité, et que évidemment il y a beaucoup de discussions pour savoir si on peut constituer, disons, une grammaire de texte avec les mêmes critères de validité, de légitimité, etc. Que ceux qui régnaient avec l'appellation grammaire de phrase. Mais cet élargissement, je veux dire, il est absolument incontournable, il est dans la pratique même de l'enseignement, nous ne pouvons pas faire autrement. Toute la question est de savoir, nous pourrons y revenir sur le plan didactique, comment on peut gérer ce traitement différencié des éléments grammaticaux, soit dans le cadre de la phrase, soit dans le cadre du texte. Et je pense que c'est évidemment pas la même gestion. C'est pas la même gestion, par exemple, de traiter de la morphologie verbale de manière relativement décontextualisée, et de traiter, bien sûr, de la question de l'emploi de tel ou tel temps, ou de tel système de temps, car je crois que les temps forment système, dès lors qu'on est dans un texte. Donc on a là encore un élargissement. Je vais ajouter un quatrième et dernier élargissement, qui est l'élargissement de la grammaire vers la prise en compte des phénomènes du discours. Là, je ne dis plus le texte, je dis effectivement le discours. C'est-à-dire le fait que les formes grammaticales sont porteuses de toute une série de modalités. Elles sont effectivement contextualisées et là je ne décris plus, si vous voulez, les phénomènes textuels. Mon problème, c'est plus que l'élément A s'enchaîne avec l'élément B qui s'enchaîne avec l'élément C. Mon problème, c'est que même l'élément A se trouve effectivement contextualisé par rapport à des problématiques du type modalisation, acte de langage, etc. On voit bien ce qui se passe avec certaines questions grammaticales. Quand on fait étudier en français, par exemple, le passif, disons la dichotomie actif-passif, on voit bien qu'on a une strate morphosyntaxique. Est-ce que les apprenants savent produire du passif ? Avec la question des auxiliaires, avec la question des transformations de l'énoncé. Bon, c'est une chose, hein, et les accords, enfin, etc. Mais on sait bien que qu'on a un autre problème qui est de rendre compte de la question suivante. Pourquoi, emploie-t-on le passif dans tel et tel contexte, dans quelle intention, pour nourrir quel acte de discours effectivement spécifique? Et c'est vrai que là, on est devant des difficultés, c'est-à-dire que On doit travailler la forme grammaticale et on doit travailler la nature de l'emploi de la forme grammaticale. Par exemple, en français, vous avez des phénomènes, bon, on n'a pas des milliards de passifs en français. Le français emploie beaucoup moins le passif que l'anglais, par exemple. Mais on a tout de même, effectivement, beaucoup de passifs. Et par exemple, on a beaucoup de passifs sans agent en français. Et la question, par exemple, d'expliquer pourquoi, hein, d'un côté, il y a une transformation passive, et dans cette transformation passive, on a le sujet qui devient le complément d'agent du verbe passif, et puis après, vous vous retrouvez sans le complément d'agent. Vous vous retrouvez avec des énoncés, je sais pas, moi, du type, le président a été assassiné. Et puis la question de savoir par qui est pour le journaliste inintéressante. Ou alors, il l'ignore. Il y a toutes sortes de raisons qui vont présider à la question de l'absence de l'agent. Eh bien, si vous traitez, en étudiant le passif, la question de l'absence de l'agent, ou la question de la paraphrase de l'absence de l'agent par l'emploi, par exemple, de « on » en français, eh bien, vous êtes obligé de faire une liaison entre les problèmes spécifiquement grammaticaux et les problèmes du discours, c'est-à-dire les problèmes du locuteur, de son intention de communication, de la réception qui est engendrée par l'énoncé, etc. Tout phénomène que je mets derrière le terme discours. Je prends un deuxième exemple. Il est difficile de faire abstraction, par exemple, de la dimension du discours, disons, et donc de la dimension du contexte, par exemple, si vous voulez expliquer certains emplois des déterminants. Si vous voulez expliquer la différence entre « le » et « un », à un certain moment, vous devez faire intervenir du contexte, c'est-à-dire une situation, effectivement, de discours. Il est vrai que, si par exemple, je suis dans une situation de discours où je suis avec les gens qui me sont familiers et où l'objet dont je vais parler est connu, je vais produire des énoncés du genre « Vous n'avez pas vu le chat ?» Mais il est évident que si je descends dans la rue pour chercher le chat et que j'agrippe des passants, je ne peux pas leur dire « Vous n'avez pas vu le chat ?» Je suis obligé de leur dire « Vous n'avez pas vu un chat ?» On voit bien que cette différence ici entre « le » et « un » est liée à la question de la situation d'énonciation. C'est donc effectivement un problème de discours. Et qu'il est intéressant de pouvoir mobiliser ce type de contexte pour expliquer à des apprenants une des différences, non pas là, mais une des différences dans l'emploi du déterminant « e », le versus emploi du déterminant « un ». Donc, il s'agit, si vous voulez, de phénomènes où la dimension discursive est incontournable. Alors, évidemment, ça fait beaucoup d'élargissement, hein, élargir à la relation lexique-grammaire, à la relation grammaire-sémantique, à la relation grammaire de phrase, grammaire de thèse, et à la relation grammaire-discours. Dans l'enseignement du français langue maternelle, j'ouvre une minuscule parenthèse, on essaie de faire entrer cette manière de voir, par exemple, au collège. Dans les instructions officielles pour l'enseignement du français au collège en France, qui date d'une dizaine d'années, en 1996, on trouve la tripartition grammaire de phrase, grammaire de texte, grammaire de discours. Et on recommande, au fond, aux enseignants de traiter les phénomènes de langue à travers cette triple perception des questions. C'est pas facile, beaucoup d'enseignants ont des difficultés, ils ne sont pas habitués à cette manière de traiter les phénomènes grammaticaux, et c'est normal, ça demande effectivement de nouveaux outils, et sans doute une formation, hein, puisque, je veux dire, nous n'avons pas été formés à cette manière de percevoir les problèmes grammaticaux. Mais ça me semble être des directions importantes. Naturellement, vous voyez bien, et je vais conclure ce premier point là-dessus, que ces termes mêmes, hein, relation lexique, relation à la sémantique, rapport phrase tête discours, ben forcément mobilisent des référents théoriques en linguistique, et que il est difficile, bien sûr, de traiter, je veux dire, sur le fond, ces éléments, ben, sans avoir été prendre une certaine information dans les théories linguistiques. Pour le discours, il est clair, par exemple, qu'on a besoin d'un certain nombre d'éléments relevant de la théorie de l'énonciation, par exemple, de la pragmatique, ou pour la relation avec le texte, qu'on appelle la linguistique textuelle ou la grammaire textuelle, etc. Mais c'est un point que je ne souhaite pas aborder, simplement je le signale, qui est la relation donc entre ces problèmes d'enseignement de la grammaire et les référents théoriques que cet élargissement est susceptible de mobiliser. Voilà. Deuxième point que je voudrais aborder, à partir de cette direction, c'est les problèmes spécifiques, disons, de la didactique de la grammaire en français langue étrangère. Bon. D'abord, il y a un constat, je veux dire, qu'on peut faire, constat. C'est une tendance. Pendant ces dernières années, il y a une tendance, je dirais, à la marginalisation de la grammaire en français langue étrangère. On s'aperçoit, dans un certain nombre de contextes, que les méthodologies communicatives du français langue étrangère ont eu plutôt tendance à marginaliser les études grammaticales. Soit en réduisant la grammaire à des petits commentaires dans les méthodes de FLE, hein, des espèces d'appendices grammaticaux, à gauche, à droite, sur une page, soit parfois en faisant un retour en force de la grammaire traditionnelle qui avait été vivement critiquée par les approches structuralistes, puis communicatives, depuis à peu près une trentaine d'années. Pourquoi il y a cette marginalisation? Je dis, dans les instruments de travail, je ne parle pas des apprenants. Je vais dire tout à l'heure que beaucoup d'apprenants émettent une très forte demande en grammaire. Non, je parle des évolutions méthodologiques du français langue étrangère pendant ces, disons, 20 dernières années, grosso modo. Je crois que ce déclin ou cette marginalisation est due à une croyance que je crois erronée. Cette croyance, ce serait qu'il y aurait une contradiction entre la compétence de communication qu'on cherche à faire acquérir aux apprenants et l'enseignement de la grammaire. C'est-à-dire, au fond, on se dit, les profs sont devant un choix, quoi. Soit ils enseignent effectivement la grammaire, et c'est la dominante de leur enseignement, soit, suivant les principes des approches communicatives, ils mettent le paquet sur l'acquisition d'une compétence de communication. Je crois que ce qui est troublant dans cette affaire, et ce qui, à mon avis, peut expliquer un certain nombre de choses, c'est que dans les méthodes communicatives, on a eu beaucoup tendance à mettre l'accent sur l'oral. Or, la grammaire est traditionnellement centrée sur l'écrit. À une espèce, je veux dire, de dichotomie, là, voire de contradiction. Cette contradiction aurait pu être surmontée par une bonne didactisation de la grammaire orale du français. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire entrer la grammaire du français parlé, la grammaire de l'oral. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Je veux dire, en tout cas, dans les manuels, instruments, etc., on continue à croire que la grammaire est l'apanage de l'écrit, et donc, effectivement, quand on fait de l'oral, on fait de l'oral dégrammaticalisé, si je puis dire. Bon. Il y a aussi une autre question, si vous voulez, qui a pu aller dans le sens de cette marginalisation de la grammaire par rapport aux approches communicatives, c'est que on assimile trop rapidement la grammaire et la connaissance des règles. Parfois, je vais même dire plus, on assimile la grammaire à la verbalisation des règles. C'est-à-dire qu'un individu qui est censé connaître la grammaire, c'est quelqu'un qui sait réciter une règle. Évidemment, je crois que cette assimilation pose un problème. Cette assimilation me semble même erronée. La notion de règle est elle-même très problématique. Et on voit bien le débat qu'il y a sur la manière de considérer les règles. Certains didacticiens pensent que les règles sont un facteur de sécurité linguistique pour les apprenants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que la règle a cette capacité de sécuriser effectivement l'apprenant qui sait où il est, il dit ah, c'est pas la panique, il y a des règles. D'autres didacticiens pensent au contraire que les règles, à cause de leur caractère très normatif, peuvent avoir un facteur de blocage chez les apprenants et être plutôt un facteur d'insécurité. Car si un apprenant a le sentiment qu'il viole une règle, il se trouve en difficulté. Bon, je vous livre les éléments de ce débat que tous les profs vivent en eux-mêmes, je veux dire, et au quotidien, j'imagine, savoir jusqu'où il y a nécessité, effectivement, de donner des règles. Mais de toute façon, il me semble que il faut changer, hein, ce débat est intéressant, parce que, pour moi, il dit la nécessité, au fond, de changer la conception même qu'on se fait de la règle à l'intérieur de la langue. Moi, je défends une grammaire inductive, c'est-à-dire une grammaire qui se fait à partir d'un corpus, une grammaire qui se fait à partir de l'examen d'un certain nombre d'éléments de données linguistiques. À partir de ces données linguistiques, on essaie de dégager des régularités, on essaie de comprendre que ça fait système, je n'emploie pas volontairement le mot règle, et on va réinvestir, effectivement, dans toutes sortes de travaux sur la langue, les régularités qu'on a essayé de dégager avec les apprenants. Il me semble que c'est plus productif que les grammaires déductives, c'est-à-dire les grammaires qui énoncent des règles et qui demandent après, dans des exercices, d'appliquer les règles. La différence, évidemment très importante en termes pédagogiques, c'est que travailler avec l'induction, ça demande du temps. Il faut que les apprenants réfléchissent, il faut que les apprenants tâtonnent, les profs avec eux. Il y a des formes d'errance, je veux dire, face effectivement aux énoncés, et je suis sûr que quand on travaille de cette manière, on contribue à ce que nous cherchons. Or, que cherchons-nous? On cherche à ce que la grammaire de la langue étrangère soit intériorisée par les apprenants. Non pas qu'elle soit un corps de savoir qu'ils sont susceptibles de débiter à tout moment sous la forme de règles, mais qu'elle puisse effectivement être suffisamment intériorisée pour réguler leur production orale, éventuellement leur production écrite, et pourquoi pas leur compréhension orale et leur compréhension écrite. Si possible, d'ailleurs, on peut en attendre des objectifs, disons, encore un peu plus élevés, à des stades ultérieurs. La capacité, par exemple, pour les apprenants, de raisonner un peu sur la langue. Hein, je veux dire, de pouvoir dire, effectivement, quelque chose sur les fonctionnements linguistiques. Même s'ils n'ont pas la terminologie adéquate, requise, etc., hein, mais qu'ils aient le sentiment d'être devant une machine qui fonctionne et dont ils peuvent parfois percevoir certains rouages du fonctionnement. Je pense que c'est ce but-là, si vous voulez, que moi j'appelle métalinguistique, fait partie des objectifs qu'on peut effectivement se fixer. Donc voilà, si vous voulez, quelques éléments là que je propose sur la situation de la grammaire en français langue étrangère. Maintenant, je vais passer à, disons, un troisième élément, c'est-à-dire énumérer quelques questions qui font toujours difficulté quand on fait de la grammaire. Et ça, j'ai envie de dire, qu'on fasse de la grammaire pédagogique ou de la grammaire scientifique, on oppose effectivement les grammaires de référence scientifique, savante, etc., aux grammaires pédagogiques, c'est-à-dire aux grammaires destinées à l'apprentissage, etc. Bon, on a toujours un certain nombre de questions. Je vais en énumérer comme ça quelques-unes qui me semblent intéressantes, à lesquelles on peut réfléchir. Par exemple, depuis l'Antiquité, on dit que les grammaires sont faites pour classer les parties du discours. Le premier rôle des grammaires, c'est de dire ça s'appelle nom, ça s'appelle pronom, ça s'appelle adjectif, ça s'appelle verbe. Aussi loin qu'on remonte, les grammaires ont toujours fait ça. Okay? Le problème, c'est que ces fameuses catégories grammaticales, eh bien, les frontières, les limites entre ces catégories sont parfois floues. La classification ne veut pas dire que nous ayons affaire à un merveilleux édifice mathématique. On hésite pour la catégorisation. Et ça, c'est un problème que tout individu qui fait un travail grammatical est obligé de rencontrer. Hein. C'est pas spontané. Je ne sais pas, moi, spontanément, si dans la phrase « le professeur est fatigué », fatigué est un participe passé, ou fatigué est un adjectif qualificatif. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui dans la grammaire française. C'est un problème endémique, si je puis dire. Hein, la structure « être » plus cet élément-là, hein, à droite, participe passé, adjectif, etc. C'est ce que j'appelle le problème des catégorisations floues. Hein. Nous ne savons pas toujours dans quelle case nous allons placer tel ou tel élément de la langue. Et il est parfaitement légitime que nous ayons des tas d'hésitations, si vous voulez, sur la consistance de telle ou telle catégorie. Hein. Quand nous décidons, par exemple, que je, tu, il, nous, vous, il et tous les autres sont des pronoms personnels, vous savez bien qu'on pourrait discuter cette catégorisation. Évidemment, il y a beaucoup de linguistes et de grammairiens qui disent mais je et tu et nous et vous, c'est pas des pronoms personnels. Il faut leur trouver une autre terminologie. Il faut les appeler comme certains noms personnels, NOMS, parce qu'il n'y a pas de pro, parce que je et tu ne remplace rien, contrairement à il et à le et à la et à lui et à leur, et etc., etc. Voilà le type de difficultés. Des difficultés de catégorisation et des difficultés de terminologie. Je pense que tout grammairien, depuis le prof qui fait découvrir la grammaire française à des débutants jusqu'aux savants, rencontre ces types de difficultés, catégorisation et terminologie. J'ajouterais qu'il rencontre aussi le problème des définitions, la pertinence effectivement des définitions. Parce qu'il y a des définitions qui définissent, il y a des explications qui expliquent, et des définitions qui définissent pas, et des explications qui n'expliquent pas. Par exemple, nous avons en français, je page cet exemple, la catégorie des adjectifs, des déterminants partitifs, les articles partitifs. Hein, c'est une source de difficulté pour beaucoup d'apprenants. Et j'imagine pour les apprenants ici au Japon, comme partout, c'est une difficulté du français, cette affaire des partitifs. Il est évident que quand nous proposons des définitions du genre on emploie un partitif quand on prend la partie d'un tout, on n'explique rien du tout, naturellement. Je veux dire, partitif défini par partie n'a rigoureusement aucun sens. Le seul moyen de définir un partitif, c'est par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, de se servir à mon avis des traits sémantiques des noms, de dire pourquoi il existe effectivement en français des noms qu'on peut compter, des noms qu'on ne peut pas compter. Parce qu'à ce moment-là, les apprenants vont pouvoir comprendre que notre tendance, bien sûr, c'est d'employer des partitifs avec les noms qui ne sont pas comptables. Et que donc, il est logique que je dise du beurre ou du brouillard. Parce qu'il est très rare que je commence à dire un beurre, deux beurres, trois beurres, ou un brouillard, deux brouillards et trois brouillards. Et que donc, si ce nom n'est pas comptable, il est logique qu'avant, il y ait un élément. Alors, appelons-le partitif si vous voulez, mais peu m'importe. La question, c'est... est-ce que nous pouvons le définir? Les francophones, d'ailleurs, sont très conscients de ces problèmes de différence entre comptable et non comptable. Parce que quand ils veulent dire, par exemple, dans la langue familière, un grand nombre de quelque chose, ils emploient avec des noms comptables des partitifs. Il y a un type qui descend dans la rue à Paris puis qui dit « il y a de la voiture aujourd'hui ». Il sait bien que normalement, on ne doit pas employer, je veux dire, de là avec voiture. Parce que voiture, c'est un nom comptable. Et il devrait dire, je sais pas moi, il y a 10 voitures, il y a des milliers de voitures, etc. Mais non, il dit, il y a de la voiture. Et il voit bien là, il veut dire, le phénomène. C'est-à-dire le transfert d'un déterminant qui s'applique pour des éléments non comptables, comme s'il disait de la confiture, hein, et effectivement, il l'applique à un élément comptable comme voiture. Et il dit, il y a de la voiture. Et tout le monde comprend. Tous les francophones comprennent. Il y a de la voiture. Ce qui, d'ailleurs, de nous poser des questions, parce que, heureusement que nous comprenons des milliers de phrases non grammaticales. Sinon, on vivrait des drames affreux. La communication serait absolument impossible. Hein. Vous imaginez, si on ne pouvait comprendre que les énoncés grammaticaux, on ne communiquerait pas, en réalité. Heureusement, nous échangeons sans arrêt des énoncés qui formellement ne sont pas des énoncés grammaticaux et que nous comprenons parfaitement. Je ne dis pas ça pour en faire un idéal pédagogique avec vos étudiants. naturellement. Mais elle dit au moins, pour, effectivement, pour les alerter sur le fait qu'ils pourront produire des énoncés non grammaticaux et parfaitement compréhensibles. Bon, on n'a peut-être pas trop intérêt à leur dire non plus, parce que ça pourrait avoir une forme de démobilisation, hein, surtout par rapport à l'enseignement de la grammaire. Alors, les frontières entre les catégories sont floues, les définitions sont relatives, la terminologie, je veux dire, est embarrassante. Parfois, nous avons des catégories où on a eu l'idée, c'était bien, qu'il fallait faire un regroupement. Par exemple, j'ai parlé des déterminants tout à l'heure. La catégorie des déterminants a été inventée dans la grammaire française. Je dirais, il y a à peu près une quarantaine d'années, on avait fait là un travail pour essayer de suivre la trace de l'invention. Car avant, ça n'existait pas, les déterminants. Moi-même, quand j'étais à l'école, j'ai jamais entendu prononcer ce mot. Il y avait des articles, des adjectifs démonstratifs, des adjectifs possessifs, et puis toute une kyrielle, hein, d'adjectifs numéraux, d'adjectifs indéfinis, etc. On a inventé la catégorie des déterminants. On a bien fait. Pourquoi ? Parce que on a procédé à une rationalisation grammaticale. On s'est dit, tiens, même si il faut découvrir après la variété des déterminants, c'est pas idiot que les apprenants se disent que devant le mot train, je peux aussi bien mettre en français, ce sera grammatical, le train, ce train, mon train, un train, et ce que vous voudrez, hein. Quelque train, pourquoi pas, hein. C'était une bonne idée, et je pense que ça reste une bonne idée. Vous voyez où je veux en venir. Très grand effet de dispersion de la grammaire traditionnelle et nécessité de regroupements qui peuvent être, je veux dire, intelligemment perçus dans l'apprentissage. Inversement, je vais donner un exemple rigoureusement inverse, nous avons des catégories fourre-tout dans la grammaire française qui ne nous servent à rien. Par exemple, nous devrions éliminer, si je puis me permettre, ça a l'air un petit peu comme ça, excessif, nous devrions éliminer l'adverbe. Ah, quel sacrilège. Bien sûr qu'on doit éliminer l'adverbe. Pourquoi ? Parce que la dénomination adverbe ne suffit pas pour n'importe quel apprenant natif ou non natif pour regrouper là-dedans, je sais pas moi, lentement, aujourd'hui, ne pas, que sais-je, je vais allonger cette liste et puis on va me dire ça s'appelle tous des adverbes. Ouais, mais à quoi ça m'avance ça ? Rien du tout. Ah oui, alors ils vont me dire, oui, ils ont une caractéristique, ils sont tous invariables. Et alors, c'est un mauvais critère, les prépositions sont invariables. Les conjonctions sont invariables. Bon, c'est pas un critère définitoire. Vous voyez, je me sers de là aussi pour me dire si le mouvement qui consiste à regrouper, comme ça a été le cas pour le déterminant, est un bon mouvement, le mouvement qui pourrait consister à dégrouper un certain nombre d'éléments est aussi un bon mouvement. Et là, de ce point de vue-là, il y a du travail. J'ajoute que parmi les questions encore, qui me semble être, je sais pas, des difficultés un peu structurelles, comme ça, de l'enseignement de la grammaire, il y a la question de, il faut tenir compte de la réelle diversité des structures de la langue. Et donc, pour ce qui nous intéresse, effectivement, des structures du français. Pendant des siècles, je veux dire, on a raconté que le français était une langue à ordre fixe, hein, avec cette fameuse théorie qui vient du XVIIe siècle, SVO, que j'ai rappelé tout à l'heure, sujet, verbe, objet. Vous savez bien, hein, tous par votre pratique, je veux dire du français, nous tous par notre enseignement, que c'est pas si vrai que ça. Et en réalité, nous avons toutes sortes d'ordres des mots complètement différents, tant à l'écrit qu'à l'oral. Nous n'arrêtons pas, quand nous parlons, mais même quand nous écrivons, je veux dire, d'avoir des phrases clivées, des phrases avec présentatif, des phrases avec structure impersonnelle, des phrases complètement disloquées, etc. D'une manière ou d'une autre, il faut trouver à faire la grammaire de ces phrases-là, ou tout au moins à reconnaître effectivement qu'elles existent. Moi, je suis frappé du fait, par exemple, que non seulement un certain nombre d'apprenants, quand ils sont en milieu andolingue, ils viennent par exemple à Paris, bon, ils sont frappés immédiatement par la question de la différence des structures. Hein, pourquoi Pourquoi? Parce qu'ils tombent sur des énoncés qui leur ressemblent complètement à abracadabra-dantesque, comme disait le président. Hein, le président Chirac qui avait inventé cet adjectif. Hein. Alors, ils entendent des trucs du genre Pierre, son vélo derrière l'église, il l'a laissé. Et qu'est-ce que c'est que ça? Aucun cours de grammaire ne nous a appris une structure de cette nature. Cette structure, elle existe. Je veux dire. À l'écrit, je suis frappé du fait que c'est incroyable. Par exemple, il y a eu une étude là-dessus dans la littérature de jeunesse, la littérature pour les enfants et les adolescents en français. Il y a un nombre incroyable de phrases à sujet inversé. Je ne parle pas des phrases interrogatives, hein, je parle des phrases déclaratives, neutres, qui sont absolument, à toutes les lignes, il y a écrit « Au milieu de la salle se trouvait le sapin de Noël ». Et puis les élèves cherchent le sujet, etc., le verbe là-dedans. Bon, et c'est une constante du français écrit contemporain. Alors, moi je dis, c'est pas facile de faire la grammaire, si je puis dire, de tous ces énoncés-là, mais c'est en même temps un problème endémique de l'enseignement du français que d'ignorer cette réelle diversité des structures qui font partie du français, qui ne sont pas du français, je ne sais quoi moi, qu'on pourrait stigmatiser comme populaire ou argotique, pas du tout. Je veux dire, qui sont du français normal, soit du français des échanges spontanés et quotidiens, soit du français effectivement de la littérature de consommation courante, et je crois que il faut les prendre en compte. C'est pourquoi je pense parfois que au lieu de perdre du temps dans certains cours de grammaire, avec par exemple, je ne sais pas moi, toute la liste des compléments, hein, cette inflation terminologique qu'on adore en français, plein de compléments, etc., depuis le 19e siècle, on n'arrive même plus à compter les compléments dans les grammaires tant il y en a, on devrait donner par exemple aux apprenants, surtout en français langue étrangère, plutôt des listes de construction verbale. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le complément d'objet attiré, c'est complètement égal. Je veux dire, ce que je sais simplement, c'est qu'il y a des structures en français du genre donner quelque chose à quelqu'un, hein, parler à quelqu'un de quelque chose, etc., et qu'on a d'excellents listings de construction verbale du français qui sont de très bons guides, et là-dedans, on y mettrait naturellement les présentatifs et les phrases clivées et les sujets inversés, etc., et il me semble que ce serait une manière de montrer cette diversité réelle des énoncés dans la langue française. Bon, vous pouvez tenir le coup encore un petit peu. Donc je vais encore peut-être développer peut-être deux points, si vous permettez, qui me semblent juste deux points qui sont bien en discussion pour la didactique de la grammaire en français langue étrangère. D'abord, le premier point, c'est comment on entre dans la grammaire. Je veux dire par là que ce que j'ai dit au début fait penser au fond qu'il y a une liaison entre les formes, naturellement, et d'un autre côté, les sens. Et liaison forme-sens. Et on pourrait se dire après tout, je commence par présenter des formes, je vais vers le sens, ou je commence par présenter du sens, et j'essaie de trouver les formes. Moi, je crois que ce double mouvement est important. C'est pour ça que je pense qu'il est bien en grammaire d'avoir au fond une double entrée, une espèce de va-et-vient. Alors ça, c'est un problème très empirique de la grammaire en français langue étrangère. Si vous connaissez certains travaux, je pense depuis les années 76 au travail fait par Coste avec Courtillon, etc., sur le niveau seuil. Si vous connaissez par exemple des grammaires comme celle de Geneviève Dominique de Salins, ou une grammaire comme celle de Charaudeau, par exemple. Toutes ces grammaires ont une chose en commun, ça s'appelle des grammaires notionnelles. C'est-à-dire que, au lieu de commencer par présenter les formes, on commence par présenter les notions. C'est-à-dire, au fond, on dit, en français langue étrangère, au lieu de partir de la réalité empirique des déterminants, je vais partir de la notion de détermination. Et je vais montrer que cette notion de détermination est marquée en français par toute une série de formes. Les déterminants marquent de la détermination. Des adjectifs marquent de la détermination. Toute une série de propositions relatives, qu'on appelle d'ailleurs relatives-déterminatives, marquent de la détermination. Vous voyez l'idée. Alors, j'ai pris l'exemple de la détermination, c'est un peu difficile, mais on peut tout aussi bien se dire, je pars de la notion de temps et je vois les marqueurs linguistiques du temps, je pars de la notion d'espace et je vois les marqueurs linguistiques de l'espace, ou que sais-je moi, ou la notion de conséquences ou de quantification, etc. C'est une manière de faire de la grammaire en français langue étrangère, qui est intéressante, qui est discutable pour d'autres aspects parce que c'est pas facile, mais ça s'appelait, cette philosophie, si vous voulez, c'est les grammaires notionnelles. Et en face de ces grammaires notionnelles, on a des grammaires qu'on appellerait plutôt formelles, c'est-à-dire je commence par les formes. Par exemple, je m'assure que mes apprenants ont intégré les différentes formes du déterminant en français, et après je vais aller vers la production de sens des déterminants. Je vais essayer de les faire réfléchir à partir des déterminants à qu'est-ce que ça veut dire dans une langue marquée de la détermination. Par exemple, choisir un élément à l'intérieur d'un ensemble, etc. Ce à quoi nous servent effectivement les déterminants. Est-ce qu'il y a à choisir? Moi, je pense que quand on est capable de faire le double mouvement, à un certain moment partir des formes pour aller vers les sens, à d'autres moments de partir des sens pour aller vers les formes, c'est bien. Je veux dire comme travail. C'est pas facile à faire, mais ça fabrique de la langue, ou de l'intériorisation de la grammaire, hein, suivant effectivement le point de départ qu'on a voulu choisir. Mais ça, c'est un vrai débat dans la grammaire en français langue étrangère. Vrai débat, parce qu'il y a des travaux, il y a des gens qui disent, voilà, on défend le notionnel, des gens qui défendent des grammaires formelles, ça vaut le coup d'en discuter. Et puis, on sait bien que chacun peut trouver des avantages à telle ou telle méthode. Un des avantages que moi j'ai toujours vu aux grammaires notionnelles, même si c'est pas facile à faire, c'est que ça permet de faire des comparaisons entre langues. Ce qui est beaucoup plus difficile avec les grammaires formelles. Pourquoi? Parce que une catégorie comme celle des déterminants, vous pouvez la chercher, hein, dans un certain nombre de langues, elle n'existe pas. Mais il est impossible qu'une langue ne marque pas la détermination. Sinon, c'est pas une langue. Il est impossible qu'une langue ne dise pas, d'une manière ou d'une autre, un élément à l'intérieur d'un ensemble. Ou tout un ensemble, par exemple. Ça, c'est impossible. Simplement, elle va le faire par des moyens extrêmement variés. Et qui ne seront pas, par exemple, ce que nous avons en français, nous, les déterminants, les adjectifs, les relatifs, etc. Donc, si on veut faire, effectivement, de la grammaire, on pourrait appeler contrastive, les entrées notionnelles sont intéressantes. Ça permet d'avoir des éléments de comparaison. Et se poser, au fond, des questions basiques, hein. Comment marque-t-on la quantification dans cette langue? Est-ce que c'est un mot autonome? Est-ce que c'est une particule qui est ajoutée au nom? Il y a plein de questions, effectivement, qu'on peut se poser. Alors, le terme contrastif, ça me permet de venir au deuxième et dernier point que je voulais noter. C'est que, c'est, disons, le point de l'apprentissage. C'est-à-dire se concentrer en grammaire sur la figure de l'apprenant. Alors, l'apprenant, il a son trajet, et le prof, il a sa progression. En gros, hein, trajet de l'apprenant et progression de l'enseignement, tel que le prof l'a dédié. Vous savez que là aussi, il y a des débats, surtout pour l'apprentissage des langues étrangères. Les linguistes de l'acquisition ou les psycholinguistes sont loin d'être tous d'accord sur ces problèmes d'apprentissage. Par exemple, il y a une tendance universaliste, on va la dire comme ça, qui pense qu'il y a un ordre déterminé dans l'apprentissage, quelle que soit effectivement la langue d'origine. On a des travaux très savants, par exemple, de linguistes aux États-Unis, qui disent, quand vous apprenez la négation en anglais, par exemple, tout apprenant, quelle que soit sa langue d'origine, passera toujours par les mêmes étapes. Il faut argumenter ces hypothèses effectivement universalistes. En face, vous avez des gens qu'on pourrait appeler contrastivistes qui mettent plutôt en valeur, entre la langue 1 et la langue 2, les zones, si vous voulez, de plus ou moins grande vulnérabilité. de plus ou moins grande difficulté, qui disent ça change en fonction des langues en présence. Non, c'est pas vrai, les apprenants ne passent pas systématiquement par les mêmes stages d'apprentissage. Et corollaire, ils ne font pas effectivement les mêmes erreurs. Et donc, c'est un débat évidemment très important pour l'apprentissage de la grammaire, tout ce débat sur l'analyse des erreurs, l'interlangue et les perspectives contrastives. Je dis ça pour que, dans l'enseignement de la grammaire, on soit effectivement attentif naturellement aux erreurs qui sont commises par les apprenants et voir un petit peu dans quel trajet, dans quel processus est-ce que ces erreurs s'inscrivent. Erreur occasionnelle, erreur systématique en grammaire, erreur tellement systématique qu'elles se sont complètement fossilisées, qu'il n'y a absolument plus moyen de s'en dépêtrer, 20 ans après les débuts de l'apprentissage, on a de tout. On le voit sur un certain nombre de questions. Il y a les erreurs des natifs et les erreurs des non-natifs. Bon, là aussi, par exemple en français, il y a peu de natifs francophones qui font des erreurs sur qui est que comme pronom relatif. On voit presque jamais ça. En revanche, on sait bien que de nombreux apprenants allophones font des erreurs sur qui est que. Vous avez beaucoup d'apprenants natifs francophones qui font des erreurs sur que et dont. Et vous avez beaucoup d'allophones qui maîtrisent assez bien et assez rapidement que et dont. Et qui feront des erreurs que les natifs, donc, ne feront pas par ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est un débat effectivement intéressant. Il faut identifier les erreurs. C'est pas facile de chercher l'origine des erreurs. Et c'est surtout pas facile de choisir les modes d'explication. Ou comme on dit parfois en France, là, les modes de remédiation. Alors, si on est des médecins, on va apporter un remède, effectivement. Les modes de remédiation. Oui, les modes de remédiation, c'est la nature des explications que nous donnons. On sait bien qu'il y a plusieurs manières de faire. Un apprenant se trompe sur qui et que. Il y a des tas de choses à faire. Et puis, les unes peuvent être absurdes et les autres fort efficaces. Hein? On va lui monter des exercices structuraux sur qui et que. Et on va attendre que par le miracle de l'imprégnation répétition dans la philosophie béhavioriste, il arrive à ne plus faire d'erreur. Oh, pourquoi pas, j'y crois qu'à moitié. On va lui donner des explications de grammaire traditionnelle, en lui disant, tu vois, tu as mal repéré l'antécédent, etc. Sauf que l'antécédent, il sert à rien, dans un certain nombre de cas, pour qui et que. C'est même une source de confusion, hein, parce que si effectivement j'ai des phrases du genre, j'attends l'homme qui vient d'arriver, hein, ou je regarde l'homme qui vient d'arriver, on va vous dire, cherche l'antécédent. Dire, ok, l'antécédent, c'est l'homme. Mais la fonction de l'antécédent, il est complément d'objet direct. Or, moi, je suis obligé de produire un pronom sujet du type qui. Donc, pour moi, posé ainsi, la recherche d'antécédent, c'est pas bon comme manière de faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh, ben, moi, je fais de la transformation à la Chomsky. C'est-à-dire, je prends deux phrases, je les transforme, et je montre effectivement comment on arrive à produire une phrase du genre... Je regarde l'homme qui vient d'arriver. Parce qu'il pourrait monter assez facilement au tableau que cette phrase se décompose en deux sous-ensembles. Je regarde l'homme et l'homme vient d'arriver. Et que si on a qui, c'est parce que dans la phrase 2, on a l'homme comme sujet. Sinon, on n'aura jamais qui. Et quand on n'aura que, c'est parce qu'il sera en autre position, etc. Ferme cette parenthèse, qu'est-ce que je veux dire? Quand les apprenants font des erreurs, nous les profs, d'abord, on a intérêt à les corriger, mais surtout, on a intérêt à savoir. Éventuellement, je donne telle explication, plutôt telle autre, ou j'en donne plusieurs, etc. Et au fond, c'est notre responsabilité, hein, de proposer ces explications, en cherchant une forme d'efficacité. Ces explications, elles sont toujours proposées dans ce que j'appellerais des grammaires interactives. Je veux dire par là que l'apprenant fait une erreur, nous la corrigeons, nous donnons une explication, nous nous assurons que cette explication est passée, c'est compliqué, et que souvent le bon moyen, c'est d'aller voir concrètement comment ça se passe dans les classes. Hein? C'est-à-dire comment se passe une séquence de grammaire à l'intérieur de la classe, les questions, les réponses, etc. Je pense qu'on en apprend beaucoup. Hein? Et on pourrait effectivement avoir comme matériau une bonne séance de grammaire enregistrée dans une classe comme ça de français langue étrangère, puis après on pourrait se permettre tous les développements théoriques qu'on voudrait, etc. Mais d'abord on verrait empiriquement, je veux dire, comment les choses se passent. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, et je demande souvent moi-même à mes étudiants de travailler comme ça sur des vraies interactions didactiques dans la classe. Quand on apprend une notion de grammaire, par exemple, là, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit le prof? Qu'est-ce que répondent les apprenants, etc. Moi, je trouve qu'il nous faut du matériel empirique. Conclusion. Comme dans les exposés ex cathedra. Conclusion. La conclusion est la suivante. Je crois que il est important de, me semble-t-il, pour bien travailler en didactique, en enseignement de la grammaire en français langue étrangère, d'avoir une bonne connaissance de la culture grammaticale des apprenants qui sont en face de vous. Donc il serait peut-être intéressant d'aller jeter un coup d'œil, mais sans doute le faites-vous quotidiennement, sur ce qu'ils apprennent en japonais langue maternelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la grammaire? Quelle grammaire? Quelle est la conception des leçons? Quelle est la conception des exercices? Car, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ces étudiants, ils sont grammaticalisés dans la langue 1. Et comment ils sont grammaticalisés? Il faut prendre en compte cet élément. Sinon, nous faisons une didactique du français langue étrangère universaliste, inattentive au contexte dans lequel se passe l'enseignement. Deuxièmement, il faut essayer, dans l'enseignement, de sélectionner ce qui fait réellement difficulté. On n'est pas obligé de tout apprendre. Personne ne connaît l'entièreté de la grammaire française, etc. Mais je crois que quand on peut être sensibilisé à un ciblage sur certains éléments qui font difficulté, et j'en sais rien, nous en avons évoqué, que sais-je, moi, l'ordre des mots en français, les prépositions, le fonctionnement des temps verbaux dans les textes, on pourrait allonger la liste, le système du déterminant complexe, etc. Important de ne pas tout apprendre de manière indifférenciée, comme si nous n'avions pas des apprenants qui faisaient des erreurs, et des erreurs concrètes. Et le dernier élément que je voudrais dire, parce que moi j'aime beaucoup la grammaire, c'est qu'il faut effectivement que la grammaire apparaisse, même en langue étrangère, comme une discipline d'éveil, au fond. Une manière effectivement d'éveiller le sentiment grammatical. Soit il a déjà été éveillé déjà dans la langue 1, etc., soit il ne l'a pas été, alors c'est une occasion, pourquoi pas, avec une langue étrangère, et en particulier le français, qui est une langue très grammaticalisée aussi, qui a une très grosse tradition grammaticale, etc., d'éveiller ce sentiment grammatical, c'est-à-dire cette capacité d'essayer de réfléchir un peu sur la langue, et bon, qui a une valeur intellectuelle, je veux dire en général, cognitive, moi je pense, qui est bien pour la tête, et qui est bien aussi, j'en suis absolument convaincu, pour finalement la compétence communicative, si c'est véritablement le but qui est visé par l'apprentissage. Voilà, quelques mots que je voulais vous dire.
Peut-être on a besoin de micro, mais comme on a enregistré peut-être les questions aussi.
Merci beaucoup, Monsieur Schiss, pour cet exposé tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Vivant. Bonjour, Olivier Massé. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez exposé. Très, très, très intéressant. Il y a un point vous êtes très très peu livré quand même, vous nous avez exposé beaucoup beaucoup de choses. Il y a un seul moment où vous nous avez dit, j'ai des convictions concernant le l'aspect métalinguistique, à savoir quand les étudiants apprennent, c'est bien qu'ils puissent s'exprimer sur le fonctionnement de la langue, même si là on n'est plus effectivement dans une perspective d'acquisition pragmatique, enfin je veux dire à visée communicationnelle. Alors je voulais vous interroger sur ce point que vous avez évoqué, parce que dans nos classes on a une difficulté forte, enfin, oui, une difficulté majeure quant à l'enseignement de la grammaire, mais de l'ensemble de, la, de tout ce qu'on a enseigné, c'est le temps. Vous en doutez bien, on a des programmes à tenir. Alors moi, je me demande si ça sert vraiment à quelque chose qu'il parle de la grammaire ou du fonctionnement de la langue, dans la mesure où on a déjà très peu de temps pour les faire produire la langue elle-même.
Oui, juste un mot. Je pense que, évidemment, je vous ai dit que j'étais méfiant sur la verbalisation en tant que telle. Hein, c'est-à-dire si c'est parler pour réciter des règles ou des choses comme ça. Non, mais qu'il puisse à un certain moment montrer qu'il comprenne quelque chose du système, même si c'est de manière embryonnaire, rapide, etc., je trouve ça assez positif. Vous voyez ? C'est-à-dire que si par exemple, eux, comme apprenants, sont capables de faire certaines relations hein, entre des éléments qui, par exemple, ont été étudiés de manière isolée, hein, je trouverais ça très bien. Moi, quand un apprenant, par exemple, en français langue étrangère, voit qu'il y a une relation entre je vois l'homme, je le vois, et l'homme que je vois, me dit, formidable cet apprenant. Je veux dire, il est très bien grammaticalisé. S'il voit cette relation-là, je ne sais pas comment il va la verbaliser avec le métalangage, la terminologie, mais d'une manière ou d'une autre, il va me montrer à moi, l'enseignant, qu'il a pigé, effectivement, cette relation. Et ben voilà, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, c'est ça un peu que j'appelle de mes voeux. Naturellement, et pas de longs exposés de la part de nos apprenants sur tel ou tel point de grammaire, hein, mais la sensation que la langue ne leur apparaît pas comme un tas de mots superposés les uns aux autres, mais parfois comme un système. Alors si ça leur est apparu dans leur langue maternelle, c'est pas mal, déjà. Ok ? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre appui sur ce sentiment de grammaticalisation s'il existe ? S'il existe, c'est prudent. Ok ? Mais ça peut être intéressant. Ça dépend des manières. Vous savez bien que dans un certain nombre de cultures où on fait fort peu de grammaire, ben en français langue étrangère, les étudiants découvrent la grammaire en même temps qu'ils découvrent la langue parce qu'ils n'ont pas d'idée de ce que ça veut dire réfléchir grammaticalement, si je puis dire. Alors que nous, évidemment, on adore, hein, je veux dire, dans la tradition française. Hein.
C'est même un grand danger qu'on rencontre souvent ici, c'est qu'en découvrant cette systématicité, ce formalisme de la langue et cette grammaire, ils deviennent extrêmement demandeurs de grammaire, oui. Et au bout d'un an ou deux, ils connaissent tous les mots pronom, imparfait, subjonctif, mais ils ne savent pas les utiliser. Enfin, oui. Ils ne savent pas conjuguer, ils ne savent pas les utiliser.
Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Eh oui, bien sûr.
Comment le grammairien gère ce problème de la catégorisation et du métalangage grammatical ?
Eh bien, il faut essayer d'avoir le moins de métalangage possible. Leur montrer effectivement les fonctionnements, mais pas être des fanatiques de l'étiquetage. Or, les profs sont sécurisés, beaucoup d'entre nous tous, je me mets dedans, sont sécurisés par l'étiquetage. C'est-à-dire qu'on pense que quand on sait comment ça s'appelle, on sait comment ça marche. Ben, il faut qu'on arrive à sortir de ce truc-là. Effectivement, mais c'est vrai que c'est pas facile, je veux dire, dans le concret de la classe. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des apprenants qui connaissent aussi bien que nous le métalangage de la grammaire française. Si, comme vous le dites, ils ne savent pas le faire fonctionner, ils ne savent pas l'employer en contexte, etc. Donc il faut essayer, je pense, en les exposant à un certain nombre de structures, en essayant de commenter avec eux ces structures, mais avec le moins de métalangage savant possible, d'avoir des prises de conscience, hein, une conscientisation du fonctionnement de la langue. Bon, ça demande du temps. Là, vous avez eu raison d'insister, je veux dire, sur ce point. Faire comme ça, ça demande du temps. Bon, mais c'est intéressant aussi, si on accepte, naturellement, de ne pas vouloir faire la totalité d'un programme de grammaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que parfois, je vois une certaine recherche de l'exhaustivité. On dit, mais on n'a pas traité telle ou telle catégorie. Et alors ? C'est pas grave, je veux dire. Si les catégories qui ont été traitées, bon, elles ont permis effectivement ce sentiment d'éveil, d'une perception du fonctionnement. Bon, on devrait aller dans ce sens-là. Après, on a besoin d'un certain métalangage pour stabiliser. Je veux dire, ce qui a été acquis. Il faut bien donner des noms à un certain moment. Puis on en a besoin pour le rapport à l'écrit aussi. Souvent, on en a besoin. Mais c'est vrai que vous êtes devant cette difficulté de... Voilà, de faire de la grammaire ne peut pas être assimilé à un jeu comme ça, terminologique. Bon. Mais c'est difficile pour nous tous de séparer ça, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons fait de la grammaire de cette manière-là. Discuter, par exemple, sur l'erreur d'un apprenant, discuter avec toute la classe sur l'erreur d'un apprenant, c'est pas mal. Vous voyez, dire, mais pourquoi, quel est le problème, pourquoi ça va pas, pourquoi on accepte X ou on n'accepte pas Y. Bon, sans donner d'explication trop savante.
Toujours dans cette ligne de réflexion, beaucoup des ténors du FLE sont radicalement contre la traduction en classe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez,
je peux vous donner un exemple très 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 simple que j'ai fait il y a quelques jours. Par exemple, ils se regardent au singulier, ils se regardent au pluriel. C'est souvent très difficile à appréhender les verbes pronominaux pour nous apprendre en japonais. Mais si on traduit, alors la difficulté saute immédiatement. Mm-hmm. Il se regarde lui-même, il se regarde des personnes. Il y a des personnes qui regardent lui-même.
Parce que, vous dites ça parce que... Parce qu'en japonais, la particule pronominale ne sera pas la même, suivant que c'est le singulier ou le pluriel.
Il n'y a pas de singulier et de pluriel en japonais.
Oui, mais ce que vous allez faire, c'est entre le caractère réflexif, d'accord, et l'autre, effectivement, l'autre manière de considérer le...
Mutuel.
Il y a réflexif et l'autre, il s'appelle... Quand c'est entre deux, comment on l'appelle?
Mutuel.
Je ne sais pas si on dit mutuel, on dit le pronominal réflexif réciproque. Et le pronominal réciproque. Voilà. Donc ils doivent avoir deux manières différentes d'indiquer le réfléchi et le réciproque. C'est pour ça, j'imagine, que vous traduisez. Parce que pour que la traduction soit révélatrice, ce que vous dites, elle est révélatrice. Donc il faut qu'elle lève une difficulté qui est en français.
Dans ce cas précis, bon, moi pendant longtemps, voulant adhérer au FLE, je me suis dit, il faut surtout ne jamais traduire, etc. Puis face à cette difficulté redondante, je me suis dit, tiens, un jour je vais leur poser la question, comment vous la résolvez? Et il y a une apprenante qui me dit, ah ben c'est facile, en japonais c'est telle phrase, telle traduction, telle phrase, telle traduction, et eux-mêmes traduisant, eux-mêmes prennent conscience de la différence.
Vous voyez, bon, mais je comprends très bien cette affaire. Moi, pour moi, ça ne s'appelle pas de la traduction. Ok. Ça s'appelle l'usage ponctuel de la langue 1 des apprenants pour résoudre un certain nombre de difficultés qui surgissent, en particulier dans le fonctionnement métalinguistique. Moi, je ne vois aucune difficulté à ça. Absolument aucune. D'abord parce que j'ai horreur des dogmatismes, hein, du type méthode directe, pas un mot en japonais dans la classe, etc. Moi, je trouve que c'est démodé. Y compris parmi les tenants comme vous dites, du FLE, je crois que ça va pas. Moi, je pense que justement, les situations que vous donnez là, il y a une difficulté, bon, et c'est une difficulté que vous voudriez d'ailleurs bien exploiter sur le plan grammatical, parce qu'elle pose tout le problème des verbes pronominaux, etc. Si le recours à la langue 1, sous la forme d'un petit moment, comme ça on dit, de traduction, arrive, moi je trouve que ça justifie tout à fait. Je veux dire, ça fait partie, à mon avis, des usages de la langue 1 en classe de langue étrangère. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant aussi, d'avoir des apprenants qui ont en commun une langue première. Vous voyez? On ne peut jamais faire ça à Paris.
Non.
Hein, quand on a dans une classe 20, 25 langues, etc., même à l'université. Je trouve bien que vous puissiez faire ça. Naturellement, il faut que vous soyez bon en japonais aussi, hein.
Bah c'est eux qui traduisent.
Oui, mais il faut valider, hein. Attention. C'est pas parce qu'ils sont natifs qu'ils sont bons. Non, parce qu'on croit ça nous-mêmes, hein, pour le français, etc. Bon.
D'autres questions?
Oui, je vous...
Ouais.
Oui, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que dans une classe de langue, un prof peut faire de l'oral sans penser à la grammaire, par exemple?
moi, si vous voulez, ces questions sont difficiles parce que c'est pas pensé. C'est, je pense qu'à un certain moment, il va être obligé d'une manière ou d'une autre d'avoir recours à un certain type d'explication grammaticale. Parce que les apprenants, même à l'oral, ils font des erreurs. Parce que même à l'oral, les apprenants, ils veulent savoir pourquoi X se dit et X ne se dit pas. Et dès lors qu'on se pose ce type de questions, appelons-le comme on voudra, on est dans la grammaire, dans l'étude de la langue, dans la réflexion métalinguistique, on a cette posture réflexive. Donc de toute façon, pour moi, on n'y échappe pas, même quand de toute façon, on pense pouvoir y échapper. C'est pour ça que je veux dire que ce n'est pas la peine, effectivement, de penser que le communicatif nous protège, je veux dire, du grammatical. Non, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, on peut avoir moins d'explications grammaticales, mais il me semble que, à un certain moment, on est obligé d'introduire, me semble-t-il, ce type d'explication. Et moi, je dis tant mieux, hein, tant mieux.
Merci.
Peut-être une dernière question.
Et d'ailleurs, je peux me permettre justement, c'est pour ça que j'avais dit dans mon exposé, par exemple, pour l'oral. On pourrait travailler avec eux aussi sur leur organisation de l'oral. Parce qu'on dit, l'oral, c'est pas un truc spontané. Il y a une grammaire de l'oral, il y a une organisation de l'oral. Est-ce qu'on est sûr que nos apprenants l'aperçoivent un tant soit peu? Non. Il ne faut pas qu'on leur dise, à l'oral, vous savez, bon, peu importe ce qu'on produit, c'est non grammaticalisé. Non, donc, bien sûr, il y a une structure de l'oral. Mais ce n'est pas facile à montrer. Et nous-mêmes à percevoir.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'invention de la catégorie des déterminants qui, qui avait rationalisé les catégories disparates auparavant. Et vous avez dit qu'au contraire, il faudrait dégrouper la catégorie des adverbes. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu?
Ben, c'est une proposition, si vous voulez. Comme je trouve que c'est une catégorie fourre-tout, hétérogène, etc., je ne suis pas un ennemi du mot en soi, c'est-à-dire de la catégorie adverbe, mais on voit bien, par exemple, que parmi les adverbes que j'ai cités, les fonctionnements de ces adverbes sont tellement éloignés qu'on se demande pourquoi ils sont ensemble. Vous voyez ce que je veux dire dans la grammaire? On voit bien, par exemple, que si vous appelez ne pas, ne plus, etc., des adverbes, très bien, on voit bien que ces adverbes doivent être traités en français avec, avec le verbe, avec la morphosyntaxe du verbe. C'est une chose. De la même manière, si vous avez des adverbes, par exemple, de quantité, comme très, comme plus, comme moins, etc., on voit bien qu'ils doivent être traités avec le fonctionnement de l'adjectif. Hein? Puisque c'est de là dont il relève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le dégroupement, ça voudrait dire que quand je suis en train d'étudier, par exemple, le groupe adjectival, j'étudie les adverbes qui vont avec les adjectifs. Quand je suis en train d'étudier, effectivement, le groupe verbal, j'étudie deux catégories d'adverbes. Par exemple, les adverbes de négation qui sont collés, et puis les adverbes traditionnels qu'on appelle adverbes de manière, qu'évidemment, on doit étudier avec le verbe, puisqu'ils portent sur le verbe. Des énoncés du genre où la voiture roule lentement, etc. Ok ? Mais je sais par ailleurs qu'il y a d'autres adverbes que je peux étudier ni avec le nom ni avec le verbe, qui sont ce qu'on appelle des adverbes de phrase. Un adverbe de temps comme aujourd'hui, par exemple, que je peux déplacer à loisir à l'intérieur de mon énoncé. Ok ? Et qui n'est donc pas lié à un constituant particulier. Ça me fait encore une catégorie supplémentaire. Sans compter effectivement les adverbes modalisateurs. Qui ne porte pas sur le contenu propositionnel de l'énoncé, mais sur l'énonciation. Hein, c'est-à-dire que je dois faire appel à autre chose. Quand quelqu'un emploie un adverbe du genre « Malheureusement, la séance va se terminer », ok ? Je sais bien que ce n'est pas un adverbe de manière. Il ne modifie en rien le verbe « se terminer ». Il veut dire « Moi qui parle, je considère qu'il est dommage que la séance se termine. » Ok ? Eh bien, je vais lui faire une autre catégorie, je veux dire, dans le fonctionnement des adverbes. Vous voyez, par exemple, je le mettrai dans la même catégorie que « lentement », avec « la voiture roule lentement », sous prétexte que tous les deux sont des adverbes en « ment ». et qu'ils marchent, ils ont le même suffixe. Mais du point de vue du fonctionnement de la langue, ce serait absurde. Ils n'ont rigoureusement rien à voir. Et les modalités de leur emploi n'ont rien à voir. Alors c'est ça que je voudrais dire quand je souligne cette idée que c'est hétérogène, c'est fourre-tout. Et peut-être qu'un autre type de classement serait mieux venu. D'ailleurs, certains grammaires le font. En disant ce que je dis, je n'ai pas inventé la poudre. Je me contente de dire ce que certaines grammaires, mais très loin d'être toutes, font.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Bon, eh bien, on en institue. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné toutes ces pistes de réflexion. Je remercie également l'ambassade de France d'avoir rendu votre venue possible. Et puis, je crois que les discussions vont continuer après et dans les prochains jours. Merci beaucoup.
Bien, et merci de m'avoir invité.